Vous écoutez
RMC.
RMC, 8h-9h.
Votre forme.
François Sorel.
Christian Recchia.
Nous voilà de retour, c'est le week-end des experts, c'est la forme, la santé. Tout à l'heure, ce sera Raphaël Grabli qui sera là, qui nous dira qu'il faut faire attention quand même au piratage de son téléphone portable. On appelle ça le SIM swapping. Il nous expliquera ce dont il s'agit. Et puis, en deuxième partie de notre rendez-vous vie numérique, on s'intéressera aux outils numériques qui permettent de repenser et optimiser notre organisation de travail. Et en plus, ce sont des outils français, donc ça c'est pas mal, vous verrez, on en parlera avec nos invités. Christian Ricard, bonjour mon cher docteur.
Bonjour François, bonjour mon François, je suis très heureux d'être là, très très heureux.
Alors,
nous allons recevoir aujourd'hui un prix Nobel de mathématiques. Les mathématiques sont les armes de nos corps et donc nous allons le recevoir, monsieur Pierre-Louis Lion. C'est un très grand honneur, grâce à madame Olivia Recassens, qui m'a donné ce contact. Et on en reparlera.
Très bien. On expliquera, parce que c'est bien beau de dire qu'on reçoit un prix Nobel de mathématiques, mais dans ce rendez-vous santé, évidemment, ça a du sens, parce que en plein confinement, vous nous expliquerez avec notre invité qu'il faut faire des maths. C'est ça ?
Il faut
travailler un petit peu.
Chers parents, il faut faire aimer les mathématiques à nos enfants.
Bon, très
les
bien.
Mathématiques font partie de nous-mêmes, elles font partie de la nature. Donc, monsieur, je laisse parler Pierre-Louis Lion qui aura les mots. Je n'ai pas les compétences.
Comment passer au mieux ce deuxième confinement sans qu'il y ait pas trop de répercussions sur le plan psychologique ? C'est vrai qu'on voit que les dégâts collatéraux du premier confinement ont été nombreux, hein, économiques, évidemment sanitaires, et puis aussi psychologiques. Là, on va essayer de vous donner quelques astuces, hein, c'est ça Christian, tout à l'heure.
Oui, nous verrons tout à l'heure que 60% et plus des pathologies sont des pathologies psychologiques. Et les gouvernements passés, et celui-là également, n'a rien compris, parce qu'il n'y a aucun moyen. Et nous allons avoir un spécialiste qui va nous donner finalement la nudité de la médecine psychologique. Enfin, on n'a aucun moyen financier. Et puis, docteur Olivier Véran n'a rien fait, ni Buzyn d'ailleurs, sur ce sujet. Donc, on est dans une situation catastrophique, nous allons en reparler longuement tout à l'heure.
Voilà, et puis vos questions, 3216, l'appli RMC, Direct Studio, vous pouvez nous laisser un petit message avec votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Et on attaque tout de suite avec l'ordonnance de Christian.
Et quoi de neuf, docteur ?
RMC.
Manger sain, manger frais, manger
les pommes !
Vous devez prendre une tasse de thé.
Ah oui, une tasse de thé, du bon thé bien préparé.
L'ordonnance de Christian Recchia.
Alors, on va parler des bienfaits du thé pour notre santé, parce que on a évoqué, c'était la semaine dernière, le café, hein, Christian, je crois bien, les bienfaits du café. Là, le thé, vous êtes très nombreux à nous avoir justement questionné là-dessus. Christian, est-ce qu'on peut considérer que le café et le thé sont dans la même catégorie ou pas ?
Oui, nous pouvons considérer que c'est la même catégorie avec autant de complexité. Nous avons vu que le café était très complexe car il y avait à la fois la plante et cette plante allait bénéficier d'un traitement, je dirais, artisanal. Et ensuite, il y a la mouture parce qu'on va moudre le café. Puis ensuite, il y a les machines. Puis ensuite, il y a la pression sur les machines, les températures. Tout ça faisait des cafés avec des goûts différents, avec des flaveurs différentes, avec une réaction physiologique sur l'humain différent, donc c'était très complexe. Le thé, c'est tout aussi complexe de par sa composition, parce qu'il y a des plantes qui font des thés, et la théine, en revanche, c'est le point commun entre le thé et le café, puisque ça apporte les mêmes effets.
Caféine, théine, même combat,
globalement, c'est un stimulant du neurone, c'est un stimulant des fonctions végétatives, et c'est très bien. On peut se séparer de la théine, et on peut garder le phénol du thé, et c'est en cela, aujourd'hui, que l'ordonnance est réalisée. C'est pour ça que l'ordonnance est réalisée, car il y a dans ces thés des phénols qui sont remarquables pour la santé. Nous avons le peuple japonais, qui est un peuple qui, je dirais, mange du thé plus que le bois. C'est-à-dire que le thé au Japon est une institution.
Voilà, qui accompagne toute la journée les Japonais.
Et qui accompagne effectivement la vie des Japonais, quelle que soit la culture et quel que soit le niveau social. Et là, nous constatons finalement qu'il y a une façon façon de se séparer de la théine en lavant le thé une première fois pour faire partir la théine qui est soluble. Et ensuite, on laisse infuser la plante pour donner, je dirais, la capacité à la plante de diffuser. Et j'aurais aimé que notre excellent Patrick Mulan soit présent aujourd'hui, en ce moment, pour préciser que finalement, la plante apporte des phénols. Et plus vous laissez infuser cette plante, plus le thé sera amer. Et plus le thé est amer, plus il y aura de l'épicatéchine qui sera favorable sur le plan vasculaire, qui va favoriser la production de prostacycline, qui est un vernis qui aide à la glissade vasculaire et empêche l'athérome, l'épicatéchine qui va empêcher les dégénérescences cellulaires au niveau du côlon et donc certains cancers du côlon. Donc finalement, c'est un antioxydant puissant. Cela étant dit, il s'agit pas maintenant d'entendre cette émission et de se dire nous allons manger du thé matin, midi et soir. Non, il faut rester raisonnable.
Quels sont les risques à dose élevée?
Les risques à dose élevée, c'est comme on ne sait pas préparer un thé à la japonaise, c'est de prendre beaucoup de théine, donc l'équivalent de beaucoup de caféine, ça c'est le premier risque.
D'être excité,
mais
c'est
je dirais que si vous lavez votre thé dans un premier temps et qu'ensuite vous le laissez infuser à la japonaise, ben ça sera très très bien. Ensuite, c'est choisir un thé de qualité bio, parce qu'il ne faudrait pas prendre des produits chimiques sous prétexte qu'il y a des industriels fallacieux qui font des plantes à grande production avec des produits chimiques.
Ce que vous dites.
Ça veut dire que
vaut mieux choisir un thé bio ou pas?
Réellement là, oui. Oui, parce qu'avec, si vous voulez, une grande marque, je ne citerai aucune aujourd'hui, bien sûr, mais là, ça a du sens, parce que finalement, quand le thé n'est pas bio, on se prend les phytosanitaires d'emblée. Cela dit, le phytosanitaire ne m'inquiète pas, parce qu'aujourd'hui, sur le plan mondial, globalement, la plante a digéré le phytosanitaire largement avant la cueillette. Ce qui m'inquiète, ce sont les produits chimiques qui transportent le produit et qui laissent au produit, c'est des produits qui l'on met sur la plante, que l'on met sur les fruits, que l'on met sur les légumes pour le transport. Et ça, ce sont des produits qui ne se désagrègent pas. Et c'est pour ça, aujourd'hui, qu'il faut faire attention à la production, je dirais, et à la qualité bio du produit.
Après, il existe une multitude de thés.
Je serais pour le thé vert.
C'est la question que j'allais vous poser.
Je serais pour le thé vert, un thé, encore une fois, qui se lave dans un premier temps.
Un breakfast, Ceylan, tous ces trucs-là, ça a du sens ou pas?
C'est nettement moins. C'est une question de goût, hein. Vous savez, François, j'ai toujours la tendance à être, je dirais, tranché dans ma façon d'être. Et là, je dirais que il faut. C'est une question de goût. Si vous prenez du thé noir, eh bien, écoutez, de temps en temps, offrez-vous un thé vert pour votre santé. Le thé noir n'a aucun intérêt santé. Si vous avez du thé blanc et que vous avez une fortune et que vous êtes accablé d'une grande fortune, eh bien, écoutez, très bien, prenez du thé blanc. C'est plutôt pour Madame Trump et Monsieur Trump. Mais concrètement, je dirais que ça n'a aussi pas trop d'intérêt. Donc le thé vert a vraiment, ça a du sens. Cela dit,
le thé santé, c'est le thé vert.
Oui. Aujourd'hui, on peut dire sur le plan international.
Donc plutôt thé vert bio.
Thé vert bio infusé, lavé dans un premier temps et vous jetez la première eau. Et puis ensuite, concrètement, eh bien, vous laissez infuser. Et les Japonais disent, les thés du soir sont les thés qui ont utilisé les mêmes plantes que le matin. Donc on a des thés où quasiment c'est la racine qui va se diluer dans l'eau le soir à 17h, voyez. Donc et là évidemment c'est un thé qui ne vous réveille pas. C'est un thé qui donne de l'arôme, je dirais, à votre eau que vous buvez.
Christian, on va revenir sur l'été, mais j'ai juste une petite question sur les infusions. C'est carrément autre chose.
Ah oui, c'est franchement autre chose.
Mais est-ce que ça a un intérêt, on va dire, pour la santé, de se boire une petite verveine, un petit thé citron, des choses comme ça?
J'adore, quand je suis en famille, de faire un thé pendant le repas. Je fais cette même technique et le thé, moi je n'aime pas l'alcool, hein, je ne bois strictement rien parce que voilà, j'aime pas et puis c'est comme ça. Cela dit, boire un thé fin donne autant de plaisir pendant un repas qu'une boisson alcoolisée. Vous voyez, c'est-à-dire que ça peut donner un parfum. J'ai souvenir de ce repas qu'on m'a offert chez Michel Troisgros il y a une vingtaine d'années, où il y avait un saumon qui avait été trempé dans du thé vert toute une nuit.
Mais c'était donc mariné au thé.
Mariné au thé, c'est tout simplement sublime. Mais c'est très facile à faire, si vous voulez. Il faut un thé très très phénolé, c'est-à-dire que vous laissez longtemps infuser.
Est-ce que le thé phénolé est très sombre? C'est-à-dire rapport avec la couleur qu'on va avoir du thé?
Absolument. Alors, vous me demandiez quels sont les méfaits du thé. Ma phrase a été interrompue par un neurone qui a explosé, comme d'habitude. Donc là, j'en ai à revendre pour 3-4 siècles.
Mais bien sûr.
Donc voilà. Et je dirais simplement, les très grands buveurs de thé ont la propension à faire des calculs d'oxalate. Et quand l'oxalate de calcium fait des cailloux, il y a une douleur exquise qui provoque des coliques néphrétiques.
Que vous connaissez bien, visiblement.
Que je connais. Et comme ce sont des petites aiguilles, quand ça passe sur l'urtère, ça vous picote, ça vous fricote. Et je peux vous dire que c'est la douleur la plus terrible qu'un humain ou qu'un homme ou une femme peut subir. Donc je dirais que, attention quand même, ce qui veut dire que le paradoxe, c'est quand vous buvez du thé, eh bien, il faut boire de l'eau pour justement laver cette oxalate ou alors faire beaucoup de sport qui provoque forcément une consommation de boissons d'eau plate, je dirais, relative. Voilà, c'est l'astuce.
On parlait de nos amis japonais qui boivent beaucoup de thé, mais c'est vrai que Geoffroy nous dit, au Maroc aussi, ainsi que dans d'autres pays du Maghreb, on boit beaucoup de thé et ils le lavent aussi beaucoup.
Oui, grand peuple, j'honore ces grands peuples qui savent faire du thé
à la menthe.
Oh là là.
Alors le problème du thé à la menthe, c'est le sucre.
Oui, il y a plus de sucre, c'est comme le cunamane, hein, si vous voulez. Il y a plus de beurre que de farine, et là il y a plus de sucre que de thé. Non mais vous savez, je pense à mon ami de La Fontaine qui va souvent au Maroc ou en Tunisie, dans ces pays merveilleux. Eh bien concrètement, on a aujourd'hui un de La Fontaine qui fait un thé comme vous le dites, mais il met moins de sucre et c'est très très bien.
Un thé à la menthe, c'est intéressant au niveau nutritionnel.
C'est remarquable, absolument. C'est absolument remarquable.
D'accord. Donc, si j'en consomme trop, je risque d'avoir des petits passages compliqués lorsque je vais aller me soulager. C'est ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure.
Oui, parce que finalement, les calculs, il y a une concrétion d'oxalate, et puis tous les quelques mois, vous allez expulser ce calcul avec des douleurs qu'on appelle des coliques néphrétiques. Ce n'est pas grave.
Combien de tasses de thé faut-il boire par jour?
Ça, c'est pas plus. Alors, quand je vois ces dames dans notre antenne, sur notre antenne, quand je vois cette merveilleuse radio, eh bien, avec des collaborateurs remarquables, avec des bouteilles de thé, elles se baladent en plus, vous savez, avec beaucoup de. C'est comme si elles tenaient un parfum, vous voyez. Elles ont le litre de thé avec elles, un litre le matin, un litre le soir. C'est une catastrophe. Il faut quand même se dire une chose, c'est que c'est pas plus de 3/4 de litre de thé par jour, quoi. Le thé, c'est pas une alimentation, je veux dire, c'est une boisson.
On peut pas substituer l'eau au thé.
Non,
on est d'accord.
Surtout pas. D'accord. Il faut un verre d'eau plate par heure, toutes les heures de votre vie, sauf la nuit. Un verre d'eau plate par heure parce que vous expirez de l'eau, vous transpirez, et puis pour vivre, il faut métaboliser de l'eau. Donc il faut, l'humain use un verre d'eau par heure. Donc il faut un verre d'eau par heure. Le thé, pour moi, ça fait partie du repas. Donc, c'est pas plus d'un demi-litre. Et je dis à tous les intellos qui nous entendent ce matin, oui, le thé, très bien, mais c'est pas plus d'un demi-litre.
Catherine qui nous dit, thé pendant le repas, attention au problème d'anémie.
Alors là, c'est autre chose, pas pendant le repas. Le thé tout court au problème d'anémie. Et fait
pourquoi ?
Parce qu'il y a la propension pour le thé à laisser. Vous savez, l'intestin, c'est une gare, c'est la gare du Nord multipliée par 1 milliard. Chaque cellule est capable de compter les protéines, les acides gras, les molécules que vous mangez. Et pour le thé, concrètement, il y a un problème, c'est que la molécule de fer, quand elle doit rentrer dans le train intestinal, il y a 2 places dans le train intestinal pour le fer. 2. Et quand vous mangez du thé, ces 2 places sont prises par les molécules du thé. Et donc le fer ne passe pas dans le train qui doit rentrer dans les cellules pour faire,
je dirais,
pour produire des globules rouges.
Le thé empêche le fer de rentrer dans l'organisme.
Et concrètement, vous n'avez plus de globules rouges, et ben vous avez de l'anémie. Et quand vous avez une anémie, vous avez une souffrance tissulaire, souffrance neurologique.
Il y a beaucoup d'aliments comme le thé comme ça qui freinent en fait l'assimilation du fer.
C'est l'excès de plantes. C'est pour ça que quand les véganes commencent à venir au pouvoir comme ceux qui éliminent les librairies, eh bien concrètement, c'est le même rapport, ce sont les mêmes personnes.
Ah, ça c'est vous qui dites.
Eh bien oui, c'est moi qui le dis, mais je le dis. Eh bien concrètement, l'idée c'est quoi? C'est simplement se préciser que finalement l'excès de végétal provoque exactement ce que fait le thé. Ce qui veut dire que quand on vous demande de manger de l'animal et du végétal, et quand je dis tout à fait astucieusement pour respecter les végétariens, qu'on commence à penser végétal et on finit par un bon steak ou de la volaille ou des œufs ou du poisson, c'est on va pas réinventer la biochimie humaine, quoi. C'est comme ça.
Qu'est-ce qu'on a comme question? Tiens, on a Thierry qui vous tacle un peu.
Oui, j'aime bien qu'on me tacle.
Il vous dit, entre un thé et un armagnac, en fin de repas, mon choix est fait. Votre nutritionniste est d'une tristesse absolue.
Ah, attendez, je suis le seul auteur mondial à avoir réalisé sur l'armagnac un travail exceptionnel.
Ah. Et là, je parle. Vous allez nous dire maintenant que l'armagnac est bon.
Mais attendez, l'armagnac qui vit contre un fût de chêne pédonculé du Limousin de basse futée, c'est-à-dire un chêne centenaire, un fût neuf. Quand cet armagnac, cette eau de vie sans intérêt, a vécu contre le fût de chêne donne des triterpènes qui sont remarquables pour la fonction intestinale. Publication du 6 décembre 2001, en présence du président de l'Académie de médecine et du professeur Cabrol, je suis l'auteur de cette publication avec Gilles Aramon. Je vous dis, une cuillère à soupe d'armagnac de temps en temps, c'est tout à fait remarquable. Ne m'éteignez pas, j'ai pas fini. Nous passons du thé à l'armagnac dans cette deuxième phase de l'émission.
Donc,
l'armagnac est remarquable.
De temps en temps.
De temps en temps, une cuillère à soupe d'armagnac. C'est très bien.
Mais tous les combien une cuillère à soupe d'armagnac.
C'est l'équivalent d'un verre de vin.
Un grand armagnac ne se déguste pas dans une cuillère.
Non, mais c'est pour donner le volume. C'est pour donner le volume. Mais c'est un fond de verre d'armagnac. Oui. C'est l'équivalent d'un verre de vin.
On peut en boire tous les jours?
Un verre de vin par jour, oui.
Un fond de verre d'armagnac.
Oui, tous les jours, sans problème.
À la fin
mais
du repas, plutôt.
Pendant le repas. Donc, voyez, mon ami qui considérait être un ennemi, mais ça devient un ami. Et je vous remercie, monsieur. Ça m'a permis d'exprimer une des publications que j'avais oubliées et que j'ai réalisées avec Jean-Jacques Lesgourg, Gilles Aramon, le professeur
Christophe
Cabrol,
Lambert, Michael Jackson.
Voilà. Non, soyons sérieux, François. Là, je suis blessé dans mon fort intérieur.
Il est 8h25.
RMC, 8h-9h.
Votre forme.
François Sorel.
Christian Recchia.
Alors, on va parler dans un instant confinement sur RMC et le fait que ça peut avoir des répercussions sur le plan psychologique avec Christian et notre invité. Mais auparavant, tiens, dernière petite question concernant le thé, Christian. C'est Eric qui nous dit est-ce que le sachet en papier du thé et conseiller comment en fait faire infuser son thé? C'est vrai qu'il y a les petits sachets là, pratique, hein, on met de l'eau et puis paf, ou alors il y a aussi ces petites passoires, etc. Qu'est-ce que vous conseillez?
Ces sachets de thé sont comme les financiers de ce monde, sans aucun intérêt. C'est-à-dire qu'en fait, ces sachets de thé, il y a de la poudre de thé dedans, ça vous colore l'eau, mais il y a très peu de principes actifs positif dans ces sachets de
donc
thé.
Dans la mesure du possible, préférons thés achetés en vrac.
Soyons professionnels, achetez des plantes, achetez un thé que vous aimez. Surtout, il faut que vous aimiez la flaveur, le goût. C'est un plaisir, c'est comme un grand vin le thé.
C'est comme le café d'ailleurs.
C'est comme le café, donc il faut vraiment que vous fassiez plaisir avec ce thé. Et donc je dirais que le thé, c'est de 8h du matin à 17h.
D'accord.
3 quarts de litre par jour avec une vraie plante et vous évitez ces sachets qui n'ont vraiment aucun intérêt, c'est de la finance.
Et puis comme on rentre dans le confinement, on aura le temps de choisir son thé. Là,
absolument.
Hein, c'est ça qui est bien. Jean-Philippe Sanchez est avec nous, vous avez décidé
très grand Jean-Philippe Sanchez,
sur notre antenne.
Un immense honneur et un plaisir.
Vous êtes psychologue, Jean-Philippe Sanchez, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors, on ne vous entend pas, mais je pense que ça va marcher. Jean-Philippe Sanchez est avec nous. Oui, bonjour.
Oui, vous m'entendez?
Oui, on vous entend.
Oui, parfait.
Alors, je me présente, Jean-Philippe Sanchez, donc je suis psychologue. J'exerce actuellement une activité libérale à Vincennes dans le 94 et à Aubonne dans le 95. Je travaillais avant dans l'APHP, dans la fonction publique, dans un service de psychiatrie et d'addictologie, donc à Créteil.
Alors, Jean-Philippe Sanchez, aujourd'hui, quel est l'état des lieux, très très brièvement, des moyens psychologiques, des moyens humains, des moyens médicaux, très brièvement, avant de parler d'un point essentiel pour lequel vous êtes là, c'est au fond, quelles sont les solutions qu'on doit apporter à nos chers citoyens confinés pour éviter de sombrer dans le désarroi, voire dans la dépression. Donc on passera aux solutions pratiques dans quelques secondes, mais avant, quel est l'état des lieux? Parce que l'état est catastrophique. Alors, je suis dépité par la situation.
Alors en effet, donc les chiffres comme le cite l'OMS, c'est 450 millions de personnes qui sont atteintes de troubles psychiques dans le monde et une personne sur cinq en France, pour ne parler que des diagnostics qui sont posés officiellement. L'OMS cite aussi qu'il y a donc la moitié des cas des troubles mentaux qui débutent avant l'âge de 14 ans et que 20% des enfants et des adolescents dans le monde sont atteints de troubles similaires, quelle que soit la culture. Alors 30% des pays, malheureusement, n'ont pas de politique de santé mentale. Plus de 30% n'ont pas de programme spécifique. Et près de 25% n'ont pas de législation. Ce qui fait des pathologies psychiques, le quatrième fardeau global de morbidité et la dépression sera bientôt en deuxième position, malheureusement.
Oui, c'est l'un des maux du siècle, on va dire, la dépression, malheureusement. Jean-Philippe Sanchez, un mot sur cette période. On repart en confinement. J'imagine que c'est une période sensible qui fragilise beaucoup de gens, évidemment.
Bien sûr, comme je viens de les chiffres le montrent, à la base, c'était pas, il y avait déjà pas mal de problèmes, et avec ce deuxième confinement, et il y avait déjà eu un premier, ça vient rajouter une couche à des problèmes qui étaient déjà existants en fait. Il y a des études qui ont montré que ce premier confinement ont engendré chez des personnes qui avaient des antécédents psychiatriques qui peuvent être très bien guéris aujourd'hui, eh bien, il persiste une anxiété et une colère 4 à 6 mois après le confinement. Donc, ça n'a pas de conséquences, ce confinement.
Alors, évidemment, quels sont finalement, alors on a compris que les ministères passés n'ont donné aucun moyen à la psychiatrie et à la médecine psychiatrique. On pourrait rester des heures sur le sujet, mais c'est pas l'objet du jour. L'objet, c'est que peut-on conseiller à nos auditeurs pour être dynamique et pour ne pas sombrer? C'est quoi les éléments concrets qu'on pourrait leur conseiller?
Alors, le premier point, j'insiste dessus, ça peut paraître simple, mais c'est demander de l'aide. Il ne faut pas souffrir seul. Il faut faire donc avec les ressources internes que l'on a. Il y a des stratégies pour autoréguler ses émotions, son stress, la respiration, la pleine conscience, la cohérence cardiaque. C'est des exercices simples.
Jean-Philippe, envie de vous poser une question parce que je pense qu'il y a plein de gens qui doivent aussi se la poser. À quel moment on doit se dire qu'il faut appeler quelqu'un?
Alors, déjà, si on se pose la question, c'est probablement qu'il faut passer à l'action. Après, on peut toujours demander de l'aide à ses amis, à ses proches. Et j'ai envie de dire, c'est comme quand on va à l'hôpital, on désigne une personne de confiance. Pourquoi pas désigner une personne de confiance, là, pendant ce confinement, qui est la personne à qui on peut tout dire. Et donc, on lui fait état de la situation. Et elle pourra très bien nous conseiller. Et sinon, en fait, tout simplement, appeler son médecin traitant. Ou d'autres professionnels de santé si on est suivi par d'autres personnes, voire demander à quelqu'un, un psychologue, psychiatre, l'appeler, voir ce qu'il peut nous conseiller.
Alors évidemment, là c'est le médecin qui parle, le médecin, je dirais généraliste, interniste. J'aimerais vous préciser ceci, mesdames et messieurs, c'est que dans un couple, quand l'autre ne va pas bien, eh bien c'est la personne du couple qui va mieux qui doit passer en alerte, et on doit véritablement compter sur l'autre pour être aidé. Le vrai problème, alors ça c'est bien quand on est en couple, quand on est accompagné, mais le vrai problème ce sont pour les personnes qui sont en solitude. Alors évidemment, les personnes âgées, on a un manque de moyens terrible, comme je viens de vous le dire. Les personnes âgées seules peuvent sombrer terriblement vite. Le problème pour les personnes âgées en plus, c'est que la thérapeutique ne fonctionne pas parce que elle perturbe considérablement les fonctions végétatives et les personnes âgées peuvent sombrer, je dirais malheureusement définitivement à cause de cela. Je parle pour les personnes plus jeunes qui sont seules et c'est là l'intérêt de cette émission en ce moment, c'est de se dire, vous n'êtes pas bien, s'il vous plaît, consultez parce que le dialogue, l'interactivité peut suffire. Alors, parfois il faut très peu de choses, hein. Vous allez me dire, vous êtes d'accord avec moi, c'est de l'activité physique, c'est sortir, c'est dialoguer, c'est écouter de la musique. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela ? C'est quoi votre vision ?
Alors, je suis tout à fait d'accord avec tout ça, hein, surtout qu'en plus, maintenant, avec la téléconsultation, on a un accès rapide et facilité avec les différents professionnels. Donc, ça peut aider les personnes qui auraient du mal à consulter quelqu'un parce qu'elles ont de la timidité ou de l'anxiété. Et par rapport à tout le reste, je suis assez d'accord, hein. Ce sont toutes ces stratégies d'hygiène de vie, en fait, sont très importantes. Et en fonction des spécificités de chacun, je dirais qu'on peut très bien essayer d'organiser tout ça, planifier, c'est un peu le maître mot, hein. Structurer ses journées, avoir des activités variées, s'organiser, planifier, prendre le temps, maintenant qu'il y a un peu plus de temps, pour s'asseoir, prendre une feuille, noter ce qu'on veut faire, nos projets. Et s'organiser dans le temps pour pouvoir arriver à faire face à tout dans le délai imparti, on va dire.
Juste une petite question technique, Jean-Philippe. Est-ce que vous pouvez faire des consultations en visio et quel est le, est-ce que ça a un intérêt? Est-ce que c'est aussi bien qu'une consultation, on va dire, physique?
Alors, malheureusement, en effet, je pourrais pas dire que c'est 100% comme une consultation en physique, mais je dirais que ça a quand même une grande efficacité. Pour avoir fait des consultations pendant que j'étais toujours au sein de la PHP à l'hôpital et des consultations même psychothérapeutiques de type EMDR où on fait normalement des mouvements oculaires, on peut trouver d'autres stratégies et on a réussi à maintenir nos séances psychothérapeutiques sur des problèmes importants, profonds, et ça a pu continuer et ça s'est très bien passé et ça continue à être efficace malgré cette distance qui peut être celle qui est liée au numérique malheureusement. Mais je pense qu'il ne faut pas que ça soit un obstacle à la prise de rendez-vous et au fait de continuer les prises en charge que l'on a déjà mises en place.
D'accord, donc les consultations se poursuivent, hein, Jean-Philippe, on est d'accord.
Elles se poursuivent, hein. Bien sûr, et même parfois, et même en physique, hein, parce qu'il y a la distanciation sociale, il y a des masques, on aère, les mêmes consignes qu'on applique à l'hôpital, c'est les mêmes consignes que j'applique dans mon cabinet, aérer entre les patients, porter un masque, avoir du gel hydroalcoolique, la distanciation, toutes les règles qui sont appliquées un petit peu partout, ou qui doivent être appliquées un peu partout.
Très bien, merci pour ces conseils Jean-Philippe
Sanchez. Merci infiniment.
Merci. Il est 8h40, on va revenir dans un instant. Alain sera avec nous, il aimerait bien avoir votre avis concernant les produits de la ruche. Christian, pollen, miel, etc. Et puis nous aurons avec nous le plaisir de recevoir un mathématicien, Pierre-Louis Lyons, qui est lauréat de la médaille Fields. Et qui va peut-être nous faire travailler les méninges pendant ce confinement, Christian, c'est
oui,
ça ?
Oui, ça sera nécessaire, surtout encourager les parents.
Est-ce que vous faites du sudoku ?
Pour pouvoir les mathématiques. Non, je ne fais pas de ce jeu. Non, je,
le sudoku ?
Je ne joue pas. J'adore les échecs.
Ah,
donc je
bien.
Joue aux échecs et j'apprends à mon petit Vittorio les échecs. Il est d'ailleurs très très bien, Vittorio.
Il va bientôt vous battre.
Oui, ça ne sera pas très difficile. Hein.
Allez, à tout de suite, c'était RMC, c'est le week-end des experts.
RMC jusqu'à 9h.
Votre forme.
François Sorel.
Christian Recchia.
Le retour de ce week-end des experts, la forme et la santé, on est là jusqu'à 9h avec Christian Riquet. Et puis juste après, ce sera Raphaël Grably qui nous rejoindra. Christian, dans un instant, nous allons recevoir un médaillé Fields.
Oui, un très grand monsieur.
Qui est l'équivalent, en fait, du prix Nobel.
Du prix Nobel.
C'est parce que le prix Nobel mathématique n'existe pas. Hein,
oui,
c'est la médaille Fields.
Monsieur Nobel n'a
merci
pas
à nos auditeurs
gagné.
De nous l'avoir rappelé.
Et donc,
tout à l'heure.
Fields est l'équivalent d'un prix Nobel de mathématiques.
Alors vous vous dites pourquoi...
Et ce monsieur a d'ailleurs été le père spirituel de monsieur Villani, d'ailleurs.
Alors pourquoi un prix Nobel de mathématiques dans ce rendez-vous santé, Christian ?
Parce qu'il faut absolument armer moralement nos parents d'élèves, papa, maman, grands-parents, sur la vision. Faites des jeux, faites des mathématiques avec vos enfants. Les programmes de mathématiques de l'éducation nationale ont largement évolué. Et là, c'est quelqu'un de compétent qui vous parle. Et concrètement, il faut absolument, par le jeu, expliquer que les mathématiques existent partout. Mais notre auditeur, monsieur Pierre Lyon-Louis, va nous expliquer tout cela.
On le retrouve dans un instant, mais auparavant, place à vos questions santé, forme, et nous avons Alain au 32-16. Bonjour Alain.
Bonjour.
Bienvenue. Bonjour Alain du Lot-et-Garonne.
Oui, tout à fait. Bonjour docteur. Bonjour.
Bonjour. Patron. Bonjour.
Oui, je voulais poser cette question-là. Est-ce que les produits de la ruche, le miel, le pollen, sont vraiment efficaces comme l'on voit dans beaucoup d'ouvrages, notamment dans le livre de monsieur Percy Dusserre, qui est à côté de chez moi d'ailleurs? Et qu'est-ce que vous en pensez, docteur?
Eh bien, écoutez.
Alors, juste une question. Vous parlez de quel bienfait, Alain? Alors, spécifiquement
sur l'immunité, visiblement. Sur l'immunité, le pollen est excellent. Mais je voulais avoir l'avis du docteur.
Soyons très précis. D'abord, les ruches, ça permet de parler des abeilles. Les abeilles, il faudrait avoir que chaque citoyen puisse avoir une ruche. Ça serait mon rêve. Cela dit, c'est un métier. Donc, il faut vraiment aussi expliquer que les ruches doivent accompagner les citoyens comme un jardin peut accompagner un citoyen ou une famille. Et donc, le produit de la ruche donne finalement du miel, qui est un sucre qui concrètement est assimilé et provoque moins de sécrétion d'insuline et contient des phénols qui sont bons pour la santé. Alors, là, c'est clair, ça a été prouvé. Il ne contient pas de vitamines, le miel ne contient pas de vitamines, et contient finalement une capacité à promouvoir et avoir des antioxydants. Ça a un intérêt. Et surtout, le miel apporte des flaveurs, des odeurs, des goûts dans un yaourt. Alors, par exemple, plutôt que de mettre du sucre blanc dans un yaourt, nature, eh bien, ou dans un fromage blanc, ou là où vous voulez.
Dans du café, par exemple.
Voilà. Une pincée de miel peut changer le plaisir, et ça a du sens. Et donc, pour répondre précisément à votre question, ça apporte du phénol, et le phénol est très bon pour la santé, et sur le point particulier
de l'immunité,
et surtout améliore la flore intestinale, parce que ça n'apporte pas un effet immédiat sur l'immunité, ça apporte un effet immédiat sur la flore intestinale. Ça profite qui, proliférant d'une façon cohérente, permet finalement d'asseoir une meilleure immunité. Car n'oubliez pas, François, que nous avons fait plusieurs émissions sur le biotope, et dans l'intestin, il y a une flore intestinale, ça profite. C'est pour ça qu'il faut manger végétal aussi, et en grande quantité. Et le fait d'apporter du végétal dans son alimentation, d'accord, apporte une flore bactérienne remarquable. Et le miel apporte, je dirais, cet élément complémentaire à la flore intestinale.
Siegfried est avec nous au 32-16. Encore une petite question qui vient d'arriver au 32-16. Bonjour Siegfried.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Déjà, très honoré de vous parler à vous deux, François et...
Merci infiniment.
C'est gentil.
J'ai écouté pendant tout le confinement, c'est du régal.
Merci.
Et du coup, je voulais savoir, en fait, je bois énormément d'eau pétillante. Et du coup, sauf quand je fais du sport, où là je bois de l'eau plate, et je vous laisse savoir si c'était problématique ou pas. Alors, de l'eau avec de la jonction de gaz carbonique.
Merci infiniment pour cette question.
Rapidement, Christian.
D'abord, c'est de l'eau plate qu'il faut boire. L'eau pétillante peut perturber par son pH la fonction rénale. Ensuite, il faut boire de l'eau pétillante naturellement gazeuse, comme la meilleure des meilleures, c'est la Saint-Géron. C'est la 20 sur 20, la 3 étoiles au Michelin. Puis, concrètement, il y a effectivement l'eau naturellement gazeuse a du sens, à condition qu'elle ait un pH comme l'eau plate de 7,2. Le problème des eaux qui sont artificiellement gazeuses, le pH de l'eau peut être à 2, à 3, et là peut perturber sévèrement la fonction rénale. Donc si vous êtes à 1-2 verres par jour, il n'y a aucun problème. De toute façon, ne dépassez pas 3-4 verres d'eau gazeuse par jour, même si elle est naturellement gazeuse. Mais quand vous faites de l'eau gazeuse à la maison, c'est un désastre pour la fonction rénale, la fonction hépatique. Donc ça n'a pas d'intérêt. C'est sûr qu'entre un whisky et de l'eau gazeuse, je préfère l'eau gazeuse, mais concrètement...
Mais entre l'eau gazeuse et l'eau plate, c'est mieux l'eau plate.
Ou la Saint-Géron, qui est un équivalent eau plate reconnu par tout le monde.
Il y a le sodium aussi, non?
Alors, dans la Saint-Girons, il n'y a pas de sodium du tout.
Mais dans l'eau gazeuse,
dans l'eau gazeuse
en général,
il y a des minéraux qui peuvent aussi être du sodium. Donc là, effectivement, il faut savoir lire l'étiquette. Ça peut faire l'objet d'une émission, d'ailleurs, dans les prochaines semaines.
Et pourquoi pas. 8h50, nous accueillons maintenant Pierre-Louis Lyons, qui est mathématicien et lauréat donc de la médaille Fields. On en parlait il y a un instant.
Monsieur Pierre-Louis Lyons, c'est un honneur.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Eh bien, écoutez, vous avez commis un ouvrage et Olivia Recassens m'a conseillé de vous joindre et je suis très très honoré et nous sommes tous très honorés de vous avoir. Quel est le thème de votre livre et comment encourager nos parents, nos grands-parents, les parents de nos enfants aux mathématiques pour, je dirais, le quotidien? Que conseillez-vous?
Oui. Tout d'abord, je voudrais dire que sans l'aide inestimable de l'excellent journaliste qui est Thiborès, je n'aurais jamais, comme vous l'avez dit, commis ce petit livre sans prétention, dans lequel on essaie de raconter quelques histoires de mathématiques pour montrer, rappeler que les mathématiques aujourd'hui dans le monde numérique qui nous entoure sont absolument partout. Que c'est une science un peu spéciale, puisque c'est à la fois une science et un outil pour appréhender la réalité qui nous entoure via la modélisation mathématique, comme on dit, que ça va donc du terriblement abstrait au terriblement concret, à travers tous les algorithmes dont on parle et qui ont une influence sur notre vie, de plus en plus d'influence sur notre vie. Donc quelques histoires sans prétention. Ensuite, des conseils, ça serait bien prétentieux de ma part pour donner des conseils, mais tout ce que l'on peut dire, c'est que, pour reprendre la parole célèbre, il ne faut pas en avoir peur. Ça peut être difficile à comprendre, mais surtout, n'ayez pas peur.
Alors évidemment, quand nous sommes parents, nous voyons des enfants arriver en troisième avec des notes indignes en mathématiques, avec des devoirs de mathématiques à réaliser. Vous me précisiez hier que les démonstrations ont disparu, sont parties, je dirais, de l'éducation nationale, parce que, je dirais, les programmes deviennent indignes. Concrètement, que peut-on faire quand on est parent et est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir des contacts avec des associations pour le mercredi, par exemple, qui aident les enfants, comme il y a des associations qui font faire des échecs aux enfants de 5 à 10 ans. Est-ce qu'il y a, je dirais, des capacités à créer un réseau d'aide aux mathématiques?
Oui, alors ça, c'est une vaste question. Je ne prétends d'ailleurs pas être un expert. Je suis mathématicien professionnel, mais je ne suis pas enseignant en collège et en lycée. Donc, je ne vais pas me mettre à la place de ceux qui sont sur le front. Pour les parents, je sais bien que c'est souvent une affaire un peu traumatisante, et surtout pour les jeunes, hein, les premiers, et puis ensuite pour les familles. Ce qu'il faut à tout prix éviter, c'est cette perte de confiance, ce décrochage. Donc, c'est de se dire « je suis nul en maths », parce que là, c'est très difficile à rattraper. Donc, tout le monde peut y arriver, j'en suis absolument convaincu, mais il faut du temps. Un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, John von Neumann, qui, entre autres choses, a inventé les ordinateurs tels qu'on les connaît maintenant, John von Neumann disait « on ne comprend jamais les maths, on s'y habitue ». Donc, effectivement, il faut un peu de temps. Et tout le monde ne s'y habitue pas à la même vitesse. Hein, je prends souvent l'exemple de courir un 100 mètres. À peu près tout le monde est capable de courir un 100 mètres à son rythme. Alors, donc, ceux qui, malheureusement, n'ont pas la chance de pouvoir courir le 100 mètres rapidement et donc éprouvent quelques difficultés avec les maths, bah, peut-être retrouver un peu le goût à travers des aspects un peu plus ludiques. Et puis, il y a des tas de petites revues hein, qui s'organisent. Donc, on se renseigne, on peut demander conseil à son prof de maths. Bon, cela dit, la tâche n'est pas aisée quand on a des difficultés, parce que vous parliez de l'absence de démonstration. Je critique assez violemment les programmes tels qu'ils sont faits, pas les professeurs. Hein. Les profs, ils sont sous contrainte de tous les côtés. Hein.
Oui, ils sont obligés de suivre un programme, c'est ça?
Bah, ils sont obligés de suivre un programme, et le programme, moi j'aurais envie de dire, on pourra en faire moins, mais mieux, plus à fond. Et puis, les démonstrations, c'est important. Un peu d'abstraction, c'est important. La logique d'une démonstration, c'est important. Faire un raisonnement logique, tous les citoyens en ont besoin.
Dans la tête d'un mathématicien, votre dernier ouvrage, hein, Pierre-Louis Lyons, qui est sorti aux éditions Humaine Science. Merci beaucoup.
Merci
d'avoir
infiniment
été avec nous.
Merci à vous.
Merci.
Au revoir.
Christian, on se retrouve la semaine prochaine.
Avec grand plaisir. Et